19h-20h. Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir chers amis auditeurs, quel plaisir de vous retrouver. Oui, c'est un plaisir de vous retrouver, vous savez, parce qu'on est ensemble, c'est toute une famille qui grandit. Les Informés, sachez-le, oui, de 19h à 20h, nous sommes ensemble pour commenter, décrypter et analyser l'actualité au sommaire de cette émission. Nous allons recevoir un sénateur que vous connaissez très bien, c'est monsieur Aklim Elouli, qui sera dans une poignée de minutes avec nous pour parler de ce gouvernement, mais également aussi d'un débat qu'il a organisé, un face-à-face, justement pour parler des questions d'actualité. Ensuite, après, nos débatteurs influenceurs vont confronter leur point de vue, justement, sur trois sujets d'actualité. Celui de Gabriel Attal, tout fraîchement nommé Premier ministre. Nous en parlerons. Quel enjeu? Qu'est-ce qui attend Gabriel Attal, le tout nouveau Premier ministre? Et puis surtout, quelle composition, ce nouveau visage de ce gouvernement qui saute, qui reste? Quels sont les nouveaux? Bref, nous en parlerons. Et ensuite, on parlera aussi d'immigration, on parlera aussi de la guerre, du conflit israélo-palestine. Nous reviendrons sur ces sujets qui parfois fâchent, qui parfois aussi règlent les questions. Nous en parlerons, y compris avec vous, 01 53 48 3000, chers amis auditeurs, en direct. Et puis le standard est d'ores et déjà ouvert au 01 53 48 3000. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Les Informés. L'interview.
L'interview, c'est avec Akli Melouli. Bonsoir, monsieur le sénateur d'Europe Écologie Les Verts, qui est avec nous. Bonsoir, monsieur le sénateur, quel plaisir de vous retrouver.
Bonsoir, Adil. Belle heureuse année à toi et toute ta famille, et à nos auditeurs, auditrices aussi, puisque c'est la première émission de l'année où je
Absolument.
Viens sur Robert
Fenn. Merci en tout cas, Akli Melouli, monsieur le sénateur. Bonne année aussi également à vous. Qu'est-ce que vous alliez me dire, pardon ?
Adil, je ne suis pas ELV, moi, je suis les écologistes.
Oui, oui, vous avez raison, les écologistes, exactement. Alors, monsieur le sénateur, tout d'abord, première question, comment vous appréhendez ce début d'année? Comment vous l'accueillez, ce 2024? De quelle façon vous voyez les choses? Franchement, disons les choses, parce que, je ne vous cache pas, beaucoup se posent la question, et se posent des questions.
Alors. Vous savez, moi je suis quelqu'un, je suis un éternel combattant et optimiste. On peut pas, je sais pas, mais ils sont capables, remarquez, tu me dirais, mais faire pire que ce qu'on a fait pour finir l'année, surtout sur l'immigration, en défonçant en fait au-delà de l'immigration, c'est le rayonnement de la France, c'est l'image de la France. C'est-à-dire qu'on a humilié, injurié, stigmatisé des gens qui font la richesse de la France, tous ces gens qui se lèvent le matin et qui travaillent. En fait, la déchéance de l'insérité qui est revenue, mais ils peuvent le faire, mais faire pire, c'est pas possible. Et en même temps, quand on est dans cette situation, ça doit nous rebooster, nous mobiliser, et c'est là où l'engagement, le militantisme prend tout son sens. Et donc, j'appelle les gens, effectivement, à se mobiliser, à s'engager. Il faut jamais baisser les bras. Les seules batailles qui sont perdues, c'est celles qu'on mène pas. Et donc, nous, on va les mener. En tous les cas, moi, je les mènerai, et je le ferai comme le colibri dans la forêt. Et vous savez, quand il y avait le feu, il cherchait de l'eau, il a rôté, puis un éléphant qui dit, mais qu'est-ce que tu fais?
Une fois qu'on a dit ça, monsieur le sénateur, une fois qu'on a dit ça, j'entends ce que vous me dites, effectivement. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on propose concrètement? Vous êtes un homme de terrain. C'est pas à vous à qui je vais évidemment démontrer ou montrer le contraire. Mais qu'est-ce qu'on répond à nos auditeurs aujourd'hui?
Eh bien, qu'il faut se mobiliser. Il y aura une grosse manif le 21 déjà, contre l'immigration et le.
Annoncé notamment par la secrétaire générale Sophie Binet de la CGT.
La CGT, avec un certain nombre de personnalités, là, il va y avoir un deuxième appel qui va sortir avec des élus. Je pense qu'on est en train de s'organiser. Je pense que les forces vives doivent s'organiser. Je le dis, de toute façon, les gens doivent reculer parce que, en démocratie, c'est le peuple qui décide, hein. Et donc, les parlementaires, nous ne sommes que la représentation et la voix du peuple. Moi, j'essaie de porter une voix de ceux qui m'ont mis effectivement au Sénat. Et donc, cette voix de ce qu'on pourrait dire les 100 voix ou d'autres, parce que chacun est élu par différentes personnes, eh bien, nous devons, en responsabilité, porter la voix des gens, comme ça a été fait sur les retraites. Je pense que rien n'est arrêté. Les lois qui ont été faites par des hommes, elles peuvent être défaites par d'autres hommes. Et donc, nous avons aussi les Européennes là pour nous exprimer. Mais nous aurons les municipales et puis après nous aurons la présidentielle. Je crois que nous avons des échéances pour dire ce que l'on veut exactement.
Tiens, justement, monsieur le sénateur, monsieur Akli Melouli, parlons-en justement des européennes. Gabriel Attal a été nommé notamment aussi pour être un peu le leader, le chef de cette majorité, y compris parlementaire. Vous y croyez, vous, justement, parce que Gabriel Attal, disons-le clairement, est là aussi pour contrer Jordan Bardella, mais également aussi pour faire en sorte que Renaissance retrouve un peu plus, je dirais, de terrain concernant cette élection européenne.
Ouais, bah le risque, c'est que effectivement, on arrive à ce qu'on voit bien, c'est le manque de fonds en politique, et on a des influenceurs qui font de la politique, en fait. On est tombé là-dedans, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de fonds. En fait, vous regardez son parcours, ou l'autre aussi, ses idées, il propose rien, en fait. C'est juste des paroles, du vent. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est vrai que vous avez raison, il n'est pas Premier ministre. Le Premier ministre, c'est Kohler. Donc, c'est lui le Premier ministre. Lui, effectivement, il
va Kohler, précisons, puisque vous faites référence à Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée. Parce que tout le monde ne le connaît pas, effectivement.
Le directeur de cabinet de Gabriel Attal, c'est un proche de Kohler. Donc, voilà, c'est là où tout va se décider. Donc, lui, en fait,
Monsieur Roussin,
ouais. il fait Emmanuel le ventriloque. Kohler est ventriloque, et donc, il a Attal pour aller faire la com, quoi. Et donc, on en est rendu là, ce qui est, c'est triste pour notre pays. Mais après tout, voilà, ça nous a, et c'est aussi, on est aussi responsable, hein. On a les gens qu'on mérite, et donc il faut s'engager. Si on ne s'engage pas, eh bien, on a l'impression, on dit, ouais, mais c'est pas de ma faute. Si, si, parce que quand on ne s'engage pas, ben, on laisse les gens majoritaires décider à notre place. Et c'est vrai que vous avez vu le peu d'électeurs qui ont voté, eh bien, ça fait une majorité qui ne correspond pas à ce qu'attendait la France. Et donc, à nous de faire en sorte que ça change.
Vous savez, certains se posaient la question, justement, quand on parle d'autorité. Est-ce qu'à 34 ans aujourd'hui, Gabriel Attal, nommé Premier ministre, monsieur le sénateur, est-ce qu'il est légitime? La question s'oppose, parce que, y compris au sein de ce gouvernement, Bruno Le Maire, pour ne pas les citer, Gérald Darmanin, qu'eux-mêmes se sont dit avant même la nomination, tous sauf lui, en qualité de Premier ministre. Aujourd'hui, il y a une question d'entente. Si vous vous dites quoi, justement? Est-ce que vous trouvez qu'il est légitime?
Moi, s'ils le disent, je dois faire force, quand même, ils sont au gouvernement avec lui depuis 2017. Donc, un peu plus tard, lui, en fait, il est rentré un peu plus tard, mais ils sont au gouvernement avec lui, donc ils connaissent bien le personnage. Donc, après, la question de la légitimité, ça s'acquiert avec le fond, le travail, parce que c'est comme l'autorité. L'autorité, c'est pas l'autoritarisme, hein. C'est pas parce qu'on vous a... Vous savez, il y a deux choses dans la vie. Il y a l'organigramme et le sociogramme. Lui, il est dans l'organigramme aujourd'hui, c'est-à-dire que il est imposé d'en haut, on l'a mis dans l'organigramme, comme on fait un organigramme. Le sociogramme, c'est la population, c'est le peuple qui vous reconnaît. C'est vos pairs qui vous reconnaissent et qui vous donnent cette place-là. Eh bien, il doit passer de l'organigramme au sociogramme. On verra s'il arrive à le faire. C'est ça la plus grande difficulté.
Une question, parce que je sais aussi que voilà, vous participez au sein de cet hémicycle à faire bouger les lignes. Vous l'avez dit vous-même. Il y a les élections européennes. C'est un enjeu. Il y a les JO. C'est aussi un grand enjeu qu'attend la France, puisque c'est l'image de la France vers l'extérieur. Comment voyez-vous, justement, il y a l'inflation, là, que subissent les Français. Vous, en tant que sénateur, quelle est la marge de manœuvre que vous avez, justement, pour faire avancer ces débats concernant le quotidien des Français, monsieur le sénateur?
En tous les cas, nous, on essaye. Hein, là, bon, on n'a pas pu passer. On a voulu faire une loi sur l'autonomie des étudiants pour les jeunes, pour qu'ils soient payés 1042 euros par mois à un revenu universel étudiant. Ça, c'est pas passé, mais en tous les cas, on l'a proposé, et parce qu'on est minoritaire. Mais mon autre boulot, c'est d'essayer. Là, on a fait passer un truc sur les voitures. Les anciennes voitures remises à neuf, vous savez qu'on peut louer pour des sommes modiques tous les mois pour les plus précaires et qui doivent se déplacer, donc ils peuvent louer une voiture à 30 ou 50 ou 60 euros par mois au lieu des 400, 500, 600 euros. Donc on est en train et ça c'est passé à l'unanimité parce que c'était du recyclage, mais on est en train d'essayer de réfléchir effectivement et à proposer des choses qui contribuent à améliorer. Et puis nous, on est très sensible aujourd'hui, c'est un des sujets, le reste à vivre, c'est un des sujets importants. On voit bien, y compris pour les collectivités sont étouffées. Nous, on va essayer de porter, on va essayer de faire prendre conscience que c'est pas en faisant les entreprises n'ont pas besoin de cadeaux fiscaux. Les entreprises ont besoin de carnets de commandes remplis. Qui remplit leurs carnets de commandes? C'est les mairies. Quand elles ont des carnets de commandes remplis, elles sont obligées d'embaucher. Donc la contrepartie est là, elles embauchent. Ces gens-là, quand ils ont un salaire, ils vont pouvoir consommer, ils vont pouvoir se loger, et ils vont consommer. Et consommer, ça va faire produire de la richesse. Vous voyez, tout un cercle vertueux. Il faut juste inverser. Il faut qu'on fasse de l'économie, une économie sociale, solidaire, et non plus de la finance pure et dure en disant il faut réduire de ça, il faut faire ci. En fait, vous savez, moi je fais de l'écologie, nous on se dit si l'écologie elle n'est pas sociale, elle ne fonctionne pas. Vous savez, c'est ces grandes phrases en disant il n'y a qu'à réduire et tout ça, mais il faut aussi partir des préoccupations des gens. Les gens, quand on leur dit qu'ils ont acheté une voiture électrique, s'ils n'ont pas le moyen de l'acheter, ils ne peuvent pas. C'est nul et non avenu, et les gens, ce n'est pas leur préoccupation. Donc il faut allier la fin de vie, la fin du mois, c'est la fin du monde et la fin du mois. En fait, il faut vraiment qu'on réfléchisse et qu'on se remette y compris en cause. Et puis, je crois comment on fait. Moi, j'ai rencontré les ONG sur l'aide, par exemple, l'aide au développement en Afrique, sur un tas de choses, parce qu'on a porté ce débat-là aussi, parce que quand l'Afrique et la France se retirent, les aides, elles se retirent en même temps, ce qui n'est pas normal d'indexer nos aides à la présence militaire en Afrique de la France. Et donc, un certain nombre de sujets comme ça, mais c'est pas en travaillant tout seul dans son coin, c'est en travaillant avec les ONG, c'est en étant à l'écoute des gens, c'est en travaillant avec les forces de la nation, les syndicats, comme je l'ai dit pour le 21, et ben qu'on sera plus fort. Je pense que nous devons créer des synergies. Nul n'a la science infuse tout seul, et il faut, au lieu de... Tout le monde parle de l'intelligence artificielle, alors qu'on n'a pas exploité l'ensemble de l'intelligence collective. Et donc, il faut essayer de faire confiance à l'intelligence collective. C'est nous tous ensemble et que l'on peut effectivement faire bouger les choses.
Ouais, rendons chacun les choses plus humaines, effectivement. On entend votre message. Une question d'actualité, c'est vous concernant justement un grand débat vous attend, un face-à-face. Vous pouvez nous en parler parce que c'est une date à ne pas manquer, mon cher sénateur Akli Mellouli.
C'est un débat à trois, c'est avec Daily Columnit et Rodrigo Arenas. Je pense que ce serait bien de venir sur votre plateau pour en parler la semaine prochaine.
Si vous êtes d'accord avec Rodrigo. Bien sûr, avec plaisir.
Et l'idée, c'est qu'en fait, on travaille sur, effectivement, tout le monde aujourd'hui nous prédit la guerre civile, l'explosion de trucs et l'importation des conflits, etc. Et donc, on va avoir un débat pour leur dire la guerre civile ne se produira pas, parce que grâce, heureusement, aux forces vives, c'est-à-dire que on n'est pas devin, mais en fait, en expliquant qu'il y a quand même des gens qui se battent, que l'engagement, le militantisme, et c'est animé par l'excellente Nora Hammadi, que tu connais, et donc, voilà, donc on aura...
Très bien.
On a ce débat pour justement essayer de travailler avec les gens pour réfléchir sur ce que l'on peut mettre. Et d'ailleurs, Adil, par exemple, l'éducation populaire, c'est quelque chose qui n'existe plus. On parle il n'y a plus de moyens, les associations, enfin, tous ces acteurs qui faisaient que le lien social ne se délitait pas dans nos villes et dans nos quartiers.
Mellouli, c'est un débat qui est ouvert au public, au grand public ?
Oui, c'est ouvert, bien sûr.
Est-ce que vous pouvez nous communiquer toutes les dates, la date précise ? Je sais que c'est le 21.
Le 22 janvier,
à quelle heure et où précisément ?
À 19h, au Théâtre 14, il faut s'inscrire pour aller sur les listes. Il y a un site où vous tapez le Théâtre 14, lundi 22 à 19h, et vous allez, ou Rodrigo Arenas, vous allez sur le site de Rodrigo Arenas, et vous allez avoir le lien pour vous inscrire.
Voilà, absolument. Un débat à ne pas manquer le 22 janvier à 19h avec notamment Akli Mellouli, qui est le sénateur écologique. Merci, écologiste, pardon. Merci, monsieur le sénateur. Merci, Akli Mellouli. Au plaisir, évidemment, de vous retrouver sur le plateau la semaine prochaine avant de se retrouver sur le grand débat.
Toujours un plaisir de vous répondre, Adil Farkan. Et bravo pour ce que vous faites. Et en tous les cas, j'espère justement, dans nos combats, vous voir un jour à TF1 ou France 2 ou France 3 animer le journal de 20h.
Ça, c'est gentil. C'est pas forcément mon ambition, mais pourquoi pas. Écoutez, je citerai pas, je suis déjà sur une chaîne de news, mais bon, après, je suis pas là pour faire de la pub. Hein, mais vous avez raison. Faut être ambitieux dans la vie.
Mais c'est pas au-delà de vous, Adil. C'est images, ces symboles qui font que nos jeunes générations peuvent croire en l'avenir.
Exactement, vous avez raison. Et ben, vous savez quoi, c'est pour ça aussi qu'on lâche rien. Merci monsieur le sénateur, merci à Akli Mellouli pour vos mots et à la semaine prochaine au plaisir. 19h13, je vais juste présenter rapidement Guillaume Dessouy. Bonjour, bonsoir.
Bonsoir
Adil. Tirez le micro vers vous. Philippe Nadjiboyaki, bonsoir.
Bonsoir Adil.
Thierry Paul Valette, bonsoir.
Bonsoir.
Barbu. Plus de barbe que d'habitude.
Bah, c'est l'hiver.
C'est l'hiver. Ah oui, c'est vrai. Il faut se couvrir. Il m'a bien répondu. Hein. Il est bon. À tout de suite. Ne bougez pas. On marque une pause. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h. Les informés présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Oui, effectivement, 19h20. Le standard est ouvert au 01 53 48 3000 pour les informés et vous-même qui nous écoutez tous les jours et vous êtes de plus en plus nombreux, on vous attend. Concernant donc les trois sujets que je vous ai proposés, la nomination de Gabriel Attal et puis tout ce que cela suscite, hein, évidemment, y compris avec certaines pointures, certaines personnalités à fort caractère dans ce gouvernement. Je pense notamment à Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, mais pas que, le ministre de l'Intérieur, qui lui-même donc est autre que Monsieur Darmanin. Bref, on en parle, 01 53 48 3000, nous parlerons aussi de l'immigration, vous savez, beaucoup d'argent dépensé, la Cour qui évalue aujourd'hui tout simplement que l'immigration, elle coûte 1,8 milliard par an aux contribuables. Bon, et ben faut qu'on en parle. Et puis le conflit israélo-palestine. Allez, c'est parti, le face-à-face.
Les informés. Le face-à-face.
Thierry Paul Valette, alors justement, je vous lance dans le sujet avant de faire un tour de table concernant Gabriel Attal. Je sais que vous avez envie, évidemment, vous avez beaucoup de choses à dire. La nomination de Gabriel Attal, avec tout ce qu'elle suscite, Et puis surtout... Bah,
elle suscite beaucoup de choses, hein, que ce soit politique et pas que, mais par contre, que ça suscite la xénophobie, que ça suscite l'antisémitisme, qu'on attaque une personne sur son orientation sexuelle, mais ça c'est sale, c'est malsain, c'est même plus de la politique, c'est de la bassesse et c'est totalement méprisant.
Ouais, parce qu'on a vu ça sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que vous en parlez.
Voilà, exactement, il y a que ça.
On a vu,
J'ai envie de dire, attendons les faits. En tous les cas... Macron, là, c'est un coup magistral qu'il a fait quand même.
Ah oui ? Pourquoi ?
C'est un coup magistral. Parce qu'on se pose la question, est-ce que ça va lui faire de l'ombre ? Ça ne va certainement pas lui faire de l'ombre, parce que de toute façon, Macron, il saura reprendre la barre du navire. Quand il le voudra, c'est lui qui décide, quoi qu'il arrive. Oui. Maintenant, Darmanin, il est remis à sa place. Bien évidemment. Il avait l'ambition d'être Premier ministre. Il a l'ambition de la présidentielle. Mmh. C'est un sacré camouflet pour Darmanin. Donc finalement, on a le fils maudit d'un côté et on a le fils prodige de l'autre. Ça reste un petit peu la bataille. Mmh. Bon, après, on sait très bien qu'il l'a placé en vue des européennes et aussi pour faire la balance avec Jordan Bardella. Mais de toute façon, ça peut être aussi un baiser de la mort. Mmh. Parce qu'il a 34 ans, il est jeune. Son expérience politique, elle est quand même assez modérée. Le poste de Premier ministre, ce n'est pas rien. Donc, ça peut être aussi un baiser de la mort. Il a toutes ses preuves à faire. Moi, je ne l'attaquerai que sur les faits.
En fait, tout le monde l'attend au tournant.
Mais ce qui est dommage, finalement, c'est que tout ça, ça reste que de la tambouille politicienne. Parce que finalement, qu'est-ce que ça va changer par rapport aux Français ? En quoi ils vont répondre aux attentes des Français ? Finalement, en rien. C'est juste un tour de passe-passe qui a été fait. Finalement, on va remplacer les uns pour les remplacer par des clones, tout simplement. Et au final, ça ne va pas changer à grand-chose.
Guillaume de Souy, je sais que ça vous interroge. Hein. Écouter...
Moi, je trouve ça même sidérant. Hein. C'est sidérant. Le président Macron est un habitué de la sidération. Hein. Et c'est ainsi que beaucoup de choses se font. Je rigole encore du fait que le débat sur l'immigration et ses difficultés politiques suite à ce débat, il les ait proprement contournées en déclarant son soutien à Gérard Depardieu, revenant complètement sur ce qu'il avait pu dire par ailleurs sur les droits des femmes comme étant un des curseurs de son mandat.
Revenons sur Gabriel Attal.
Mais bon, revenons sur cette question. Du favori.
Je doute que vous soyez d'accord avec Thierry-Paul Valette.
Pour moi, c'est clairement un marqueur de la politique qu'il faut faire autrement. C'est-à-dire que on nous le présente comme quelqu'un d'excellent, comme quelqu'un de formidable. Mais c'est quelqu'un d'excellent et de formidable dans quoi ? Dans cet organigramme dont parlait Aklimeloui, c'est-à-dire ce petit sérail.
Il n'y a pas de bilan. Il n'y a aucun bilan.
En termes de bilan,
il est passé 6 mois, c'est un fantôme.
En termes de bilan, à l'éducation nationale, c'est l'abaya.
Débat
stérile qui est un marche-pied pour le RN.
Bilan zéro.
Il était apprécié par certains enseignants, en tout cas.
3000 profs qui devaient être sur le terrain, qui n'y sont pas, alors que le président avait mis dans la balance que grâce à Gabriel Attal, qui était le plus fort, l'excellence personnifiée, les profs seraient dans les classes. Les profs ne sont pas dans les classes et il a fait un débat pourri. Est-ce qu'il va continuer ainsi ? Moi, franchement, j'espère que non, parce que Premier ministre, effectivement, c'est quand même un niveau de politique qui demande clairement autre chose. Mais pour faire clairement autre chose, quand on est Premier ministre, effectivement, il faut avoir une base sociologique. Il faut ne pas être fragile. La seule caution de Monsieur Attal, c'est le choix du président et Monsieur Attal a raison de dire que le président s'en débarrassera quand il le voudra. Mais quelle image ça donne de la
Monsieur
politique
Attal ou Monsieur non Thierry Paul Valette
hein non moi
Monsieur
oui, oui monsieur... je suis pas Monsieur Attal ouais,
ouais. Non, non.
C'est
Valette
c'est Valette
que Monsieur
Macron se débarrassera de Monsieur Attal quand il le voudra. Mais quelle image ça donne de la politique
Quelle image
on veut de la politique autrement. On on veut pas de bah, ces espèces de
l'image de... que ça donne, ça donne la même image que finalement les influenceurs. Bon ben bah, on peut être oui. Premier ministre à 34 ans en ayant peu d'expérience politique, voire aucune expérience aussi professionnelle, et arriver avec une fulgurance incroyable du jour au lendemain.
Philippe Nadji-Boriaki.
Écoutez, déjà bonjour à tous et à toutes, bonjour à vos auditeurs et auditrices qui nous écoutent.
On l'a dit tout à l'heure.
Oui, mais moi je l'aurais pas dit.
Non, parce que non, je parle à Guillaume.
Mais moi je l'aurais pas dit.
Moi j'ai pas dit bonjour aux auditeurs. Mais c'est pour ça. Je suis parti trop fort sur cette question d'Attal.
J'ai même pas dit bonjour.
C'est compliqué
pour relever le niveau.
Bonjour aux auditeurs.
Bonjour aux auditeurs.
On pense à ceux qui sont en voiture en se disant on a des problématiques ce soir et qui en vérité c'est complètement secondaire et accessoire à l'animation du Premier ministre. Mais ça va impacter leur vie au quotidien. Donc intéressez-vous à la politique, sinon c'est la politique qui va s'intéresser à vous et jamais toujours du bon côté de la lorgnette ou de la lunette en tout cas. C'est audacieux. On va pas faire un procès de jeunisme à quelqu'un qui vient d'arriver parce qu'il est jeune, donc pas compétent. Audacieux parce que c'est vrai, Thierry l'a dit, il n'a jamais connu le monde de l'entreprise tel que certains d'entre nous ont eu la chance ou la malchance de connaître. Et puis pourquoi pas pour renverser la table, changer complètement l'échiquier, changer le logiciel parce que celles et ceux qui sont passés, ses prédécesseurs qui sortent de l'ENA, de Polytechnique,
des technos quoi,
des technos n'ont pas vraiment réussi dans cet exercice. Alors pourquoi pas ça, l'audace. Mais en vérité, le Premier ministre, c'est le capitaine d'une équipe. C'est quoi l'équipe? Bon, déjà, on a un premier pas, celui...
Sauf que là, ça soulève quand même des questions. Il y a Bruno Le Maire, déjà, à qui ça pose un problème d'ego, et Gérald Darmanin.
Ouais, Darmanin, non,
mais
aussi.
Attendez, l'ego, c'est un fait, et ça existe en politique, et heureusement que ça existe en vérité, l'ego.
Surtout que c'était un peu le disciple, non, mais... Bruno Le Maire, c'était un peu son disciple, hein. C'était oui, un peu l'élève.
Oui, d'accord. Ce
bah, nouveau, cette image où il le prend par l'épaule, il lui dit bon, voilà.
L'élève allez. Dépasse le maître à 10. Et ça, puis,
Philippe,
ça
pour être audacieux, il faut être solide. Je veux dire,
attendons de le voir.
Monsieur Attal, il a été d'école en école. Et le gouvernement a été une école pour lui. Bah, et aujourd'hui, il a le premier poste.
Mais beaucoup le pensent, Philippe Nadji,
Attendez, je suis un pacifiste, il ne me laisse pas finir.
Non, il aurait 34.
C'est pas démocrate. Non, je suis en train de dire, bah, dans ces cas-là.
Parce qu'il y a quand même
Maurice Valette.
C'est vraiment
le maire, il y a Darmanin. Il faut les tenir. Je sais. On va tous parler ce soir, on va se dire les choses.
On peut pas faire ce procès-là, parce que sinon, les professeurs d'école qui ont passé leur vie sur les bancs de l'école, qui sortent de l'école pour enseigner à l'école, on pourrait leur faire le même procès dans ces cas-là. Pourquoi on leur fait pas le procès? On peut pas le faire pour lui et pas pour les autres. Moi, je dis 100 jours. Comme pour chacun, laissons-lui 100 jours et jugeons les actes et le produit à la fin. Alors, maintenant, on va se dire les choses entre nous, puisqu'on est entre nous et qu'il y a juste 3 millions d'auditeurs sur BFM qui nous écoutent. La Dream Team existe-t-elle? La Dream Team doit-elle se dépasser? On a vu qu'au dernier remaniement, Macron a recentré auprès de la Macronie et n'a pas ouvert à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il n'a pas été chercher des gens de droite ou des gens de gauche ou des écologistes. Et en plus, des écologistes pragmatiques à l'écologie au centre, on en a un paquet. Aujourd'hui, si on resserre dans un serail encore plus intime, on fait de l'entre-soi.
Il est question de resserrer ce gouvernement, d'ailleurs.
Comme à chaque gouvernement, il n'y arrive jamais.
On va voir
Thierry Paul Valéry. Mais en tout cas, il est question de le resserrer. De faire sauter des têtes et de le resserrer.
Il y a un problème avec la parité. Il est confronté à la problématique de la parité.
Oui, on va voir.
Elisabeth Borne l'avait déjà souligné avant de partir.
Mais attendez, non, la parité, ça c'est obligatoire. Ils vont être obligés de la faire. Alors après, si c'est pour mettre un tel sur un poste et lui dire Jacques a dit, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, moi je l'ai dit aujourd'hui sur un autre média, le pays est fracturé. On le sent bien, on le voit bien et on le ressent d'une puissance extraordinaire. Dans toutes les démocraties, lorsque vous n'avez pas une majorité dans un parlement, vous êtes obligé de faire un gouvernement d'union nationale. Alors c'est pas pour ça qu'on va s'entendre sur tout, mais au moins il faut qu'on puisse avancer, il faut enclencher
des
réformes.
C'est possible ça, mais attendez.
Mais bien sûr que c'est possible.
Attendez, on va interroger mon collègue.
Un gouvernement d'union nationale.
Guillaume Dessus qui est un élu aussi, est-ce que c'est possible ça, cette union nationale, et Thierry Paul Valette répondra après.
Mais moi j'ai envie de dire que ça aurait été plus facile.
C'est parce que cherche. Avec, c'est parce que cherche avec, le chef
avec,
de l'État. Hein.
Avec un cinquantenaire, il y en a beaucoup qui ont des parcours. Et va y avoir beaucoup de réactions viscérales.
Les gens ont besoin d'avoir confiance. Les gens, on a décrié la politique en disant mais la politique, ce sont des professionnels parce qu'ils vont rester s'accrocher à leur poste et en amasser des salaires et faire fortune, etc. Mais finalement, c'est pas ça non plus de politique. C'est pas que ça. Et c'est vraiment caricatural de le résumer qu'à ça. Sauf que aujourd'hui, on l'a vu avec un président qui a été élu très jeune, avec des députés qui ont été élus alors même qu'ils n'avaient jamais fait de politique. On a vu un peu ce que ça a donné dans le débat public. Les gens ont besoin d'être assurés. Les gens ont besoin de confiance.
Philippe propose. Attendez, s'il vous plaît,
messieurs. Non, attendez. Un premier ministre et un prof de classe. Attention.
Non, l'objectif du chef de l'État au départ, c'était de créer un gouvernement qui rassemble la majorité et non pas un gouvernement d'union nationale. D'accord, parce qu'il y a quand il y a les élections européennes dont vous êtes candidat vous-même, hein, Thierry Paul Valéry.
Oui, bien sûr, c'est compliqué aussi.
Comment créer un gouvernement d'union nationale alors qu'il cherche justement un leader pour fédérer? Au sein de cette majorité, Thierry Paul Valette, c'est pas possible.
Ah, c'est pas les mêmes objectifs.
Ben non.
Mais il cherche pas un leader pour fédérer. Il a mis Gabriel Attal sur orbite en vue des européennes et en vue de la prochaine présidentielle. Et aussi pour circuiter Darmanin.
Je pense pas.
C'est
pas
pour autre chose.
L'avenir d'Attal, c'est plutôt la même chose.
Attal, on peut le comparer à Jordan. Clairement. Au niveau de l'âge, au niveau de sa fulgurance, au niveau aussi de sa manière de faire et de parler. Voilà. On sait très bien que les européennes, c'est perdu d'avance. Simplement, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il veut faire? Il a juste envie de réduire le score. Bah,
si
il
c'est,
veut être
si
derrière, il va dire.
Non, mais c'est pas
un il a pas tort. Il a aussi le coup d'après.
Il va pas dire que c'est une victoire.
Mais il n'y a aucun président qui a été premier ministre.
Vous le savez très bien que Gabriel Attal, c'était aussi pour contrer d'une certaine façon Jordan Bardella. Vous le savez.
Sûrement.
Non, mais attends. De toute façon, j'en termine, en mettant Gabriel Attal au poste de Premier ministre, il pourra le contrôler comme une marionnette. En mettant Darmanin, Bruno Le Maire, il ne pourrait pas.
Ah, mais
pourrait
ça, c'est
pas intervenir de sa manière. C'est clochette. Ça aussi. Ça, c'est... Macron ne pourra pas s'empêcher
non, mais
de faire
veux
du
dire,
Macron.
C'est des profils complètement différents. Là-dessus, là, on peut que se l'accorder. Maintenant, mettre... tout à l'heure, j'ai entendu parler du baiser de la mort. Mettre,
oui, c'est moi, oui. C'est baiser de la mort.
Mettre Attal en tant que Premier ministre, je pense que ça, si ça se passe bien, bah effectivement, et ça peut le propulser pour 2027. Si ça se passe mal, il le carbonise.
C'est
pour ça que Édouard Philippe s'est barré rapidement en disant ouh là là là.
Fabius s'en est jamais remis.
Et Elisabeth Borne n'a pas voulu non plus du poste absolument. De ministre de
Allez,
la
on
Défense.
Marque une pause.
Mais face à Le Maire et face à Darmanin, il y a de grandes chances qu'il ne fasse pas le point.
On continue d'en parler. On va marquer juste une pause, s'il vous plaît. On marque une pause. On continue d'en parler et je voudrais accueillir nos auditeurs au 01 53 48 3000. Si vous souhaitez en parler, à tout de suite. Ne bougez pas. Restez avec nous. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h. Les informés présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Oui, également aussi, vous savez, 19h40 avec Philippe Nadjiboyaki, avec Guillaume Dessouy et enfin avec Thierry Paul Valette. Chers amis, nous allons parler. Alors j'ouvre l'antenne, tiens, je vais ouvrir l'antenne. 01 53 48 3000, c'est parti.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Oui, on vous donne la parole. On voudrait vous entendre sur ce nouveau gouvernement, mais surtout avec la nomination du Premier ministre Gabriel Attal. Tout de suite, 01 53 48 3000. Beaucoup d'argent, beaucoup dépenses. Alors, justement, tiens, je voudrais vous entendre aussi, chers amis auditeurs. Et beaucoup pensent que c'est pour pas grand-chose. Alors, est-ce que c'est vrai, oui ou non? La Cour, elle évalue le coût total de cette politique de lutte contre l'immigration irrégulière à 2 milliards d'euros, 1,8 précisément.
Oui.
Alors, de l'aide, y compris hein, de l'aide médicale d'État, l'AME, ce qu'on appelle. Mmh. L'AME qui coûtera au bas mot 1,2 milliard à la collectivité en 2024. Qu'est-ce qu'on peut dire, chers amis? Mettons les pieds dans le plat, parce que là, effectivement, c'est un sujet qui concerne les Français, Thierry Paul Valette.
Mais c'est un sujet, dès qu'on parle d'immigration et dès qu'on a envie de pondre une loi ou qu'on met les pieds dans le plat, il y a toujours ces polémiques de « ben oui, mais ça coûte cher, ça coûte cher, ça coûte cher ». Alors moi, j'ai envie de dire deux choses. C'est que, premièrement, les 2 milliards que coûte l'immigration clandestine,
oui.
Clandestine, pas l'immigration en règle générale, c'est quoi comparé aux quasiment 100 milliards d'exil fiscal contre lequel le gouvernement Macron ne fait rien. Qu'est-ce que c'est comparé aux 1 000 milliards d'exil fiscal en Afrique, rien du tout. Mmh. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, ça a un coût, mais d'un autre côté aussi, ça rapporte. Il faut savoir que l'immigration, c'est à peu près 1,2% du PIB. Mmh. Ce n'est pas rien.
Là, on parle d'immigration irrégulière. Guillaume de Souy.
Oui, pour l'immigration irrégulière, ATD Quart Monde dit que ça rapporte 4 milliards annuels. Hein. Donc, voilà. Et la précision est importante. Quand,
c'est un sujet qui concerne aujourd'hui les Français. Les Français disent qu'il y a un problème de sécurité. Les Français disent qu'il y a un problème tout court de...
Qu'on leur met dans le crâne.
Je pose la question.
C'est important de préciser que c'est en grande partie la lutte contre l'immigration et donc entre guillemets des mesures sécuritaires qui sont diverses et variées. Hein. On met beaucoup de choses là-dedans et on grossit quand même les stats d'une façon outrancière.
Et c'est le calcul aussi, c'est la manière dont ils calculent. Qu'est-ce qu'ils prennent en compte dans leur calcul par rapport au ministère de la Défense, etc., selon les chiffres. C'est aussi la méthode.
Et la question de l'immigration, il faut sans cesse redire que c'est une question de dignité humaine. Si on veut résoudre le problème de l'immigration, c'est pas en créant des murs, c'est en tendant la main. Il y a effectivement des problèmes qui font que les humains bougent sur la planète. Oh là là, quelle découverte! Franchement, l'immigration, il faut arrêter de la culpabiliser. L'immigration, c'est au cœur de l'humanité elle-même.
Philippe Boyacki?
Non, je crois que l'immigration, quand on parle de dignité humaine, il faudrait déjà payer ce qu'on doit, le prix qu'on doit au pays pour qu'il puisse permettre de se développer et pour éviter que sa jeunesse se barre. En fait, elle est là. Quand tu achètes l'uranium trois fois rien et qu'ici tu le vends trois fois plus et qu'en fin de compte là-bas tu spolies des terres, alors je suis pas dans la culpabilisation, victimisation, viens, on est sur la pleurniche. Je dis que si je parle, moi, c'est sûr que c'est assez... fort très peu d'auditeurs de Beurre FM qui doivent voter à Rassemblement National. Mais au électorat du Rassemblement National, qui a peur d'une vague migratoire et dont les gens à rester chez eux, parce qu'on ne quitte jamais sa terre par plaisir. On la quitte parce que nous sommes des nomades. En vérité, nous ne sommes pas sédentaires. Dans notre ADN, nous sommes des Touaregs. On se déplace au gré des saisons, on migre vers là où il y a la nourriture qui puisse nous permettre d'assurer la vie pour notre progéniture. Donc, si vous êtes dans un pays et qui se développe, vous avez du travail convenable, vous n'êtes pas exploité, vous avez des droits humains, c'est-à-dire que l'opposition ne se retrouve pas tous les 4 matins en prison à se faire torturer, vous n'avez pas envie de bouger. Donc, on est aussi... enfin, pas nous, les citoyens, mais les grands responsables et les grandes multinationales responsables de cette migration forcée et pas une migration choisie. Et en même temps, on est super content dans nos hôpitaux d'avoir des médecins d'Afrique, d'avoir des médecins nord-africains qui viennent nous soigner, qui sont 4 fois moins payés que nos médecins français ici chez nous. Alors, à diplôme égal, alors là, on est carrément dans l'exploitation totale. Parce que s'ils sont pas là.
Ils ne sont pas reconnus de la même manière.
Alors, ils sont pas reconnus, mais ils peuvent exercer. Et donc, après, il y a une validation.
Voilà,
mais
après,
pendant toute cette période-là, eh ben, ils sont sous-payés.
Comme on était content aussi d'avoir tous les balayeurs et tous ceux qui relèvent les poubelles quand ils faisaient la grève pendant la réforme des retraites. On était avec eux.
Mais complètement. Hein. Mais complètement. C'est pour ça qu'on est dans une hypocrisie totale. Par contre. Ceci n'empêche.
Je la voyais arriver, ce par contre.
Ben oui, mais parce que.
Je me suis dit, connaissant un peu Philippe.
Il faut qu'on arrête de se mettre un voile.
Il y a un moment dire, ouais.
Et moi, c'est un reproche que je fais à cette gauche qui a fait monter le Rassemblement National. C'est eux les responsables de cette force du Rassemblement National sur le ressenti des Français. Et jusqu'à présent, c'est eux qui votent et c'est eux qui nous élisent. Et puis, la réalité sur certaines problématiques dont, et je le dis de manière forte, claire et précise, il y a des gens qui viennent de manière clandestine dans notre pays, qui commettent des actes délictueux, et nous n'avons pas besoin de ces gens-là. Et quand je dis nous, je parle des enfants de la diaspora, je parle des enfants issus de l'immigration, qui prenons en pleine tête le racisme de masse et force, pour une poignée, certes, mais une poignée visible, une poignée qui fait du bruit pour une majorité silencieuse.
Donc,
il faut qu'on soit sans pitié avec eux.
Vous voyez, vous avez posé la question, voilà, l'immigration clandestine, elle a un coût. Tous les deux, vous avez répondu, mais finalement, vous n'avez pas répondu par rapport au prix que coûte réellement l'immigration, ou bien à ce qu'elle rapporte en termes d'économie ou en termes d'autres choses. tout de suite, on est allé sur et le racisme et l'immigration, comment on peut la contenir, les problèmes de sécurité. Voilà, c'est toujours comme ça. On est toujours en train de disperser les véritables problématiques et d'agiter
les gros roues d'un autre côté. Maintenant,
ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a toujours eu des vagues migratoires et il y en aura toujours. Et les plus grandes, elles sont à venir. Les Français ne sont pas racistes. Les Français, on les rend racistes. Les Français ne sont pas dans la haine de l'autre. On est en train de les dresser contre les uns contre les autres. Parce qu'il y a une forte montée des populismes. Et au travers de l'histoire, on l'a toujours vu. Quand il y a des graves crises sociales, qu'il y a de l'inflation, quand il y a tous ces populismes-là, avec tous ces partis extrêmes qui sont en train d'émerger, les gens, eh ben, ils ont un sentiment d'injustice. Ils ont un sentiment d'insécurité. Ils sont dans la peur, dans la haine et dans le rejet de l'autre. Et de toute façon, quand on écoute les Français, on l'entend. Ah mais oui, mais eux, ils viennent, ils ont tel avantage, ils ont le droit à avoir des allocations, ils ont l'AME, et nous, on trime, on n'a pas le droit, on ne peut pas. Plus on va continuer à saigner les Français, plus ils vont être dans la détestation de ceux qui viennent et qu'on veut essayer d'accueillir dignement. C'est ça aussi la grande problématique. Donc si on veut régler le problème de l'immigration aussi, dans ce que j'appelle le vivre ensemble, parce qu'on peut vivre ensemble et on doit vivre ensemble aussi, c'est aussi régler le problème des Français, les salaires, leur apporter de la dignité humaine. Mais maintenant, la problématique, en fait, c'est même plus question comment on va remplir le frigo. Le frigo, ils sont obligés de le vendre.
Moi, je vais donc dire à M. Valette que j'étais absolument pas sur une lecture sécuritaire, que j'ai bien dit et que je le répète, que il n'y a pas à culpabiliser l'immigration. En fait, il y a d'autres sujets, de vrais sujets. Vous en énumérez un certain nombre. Et si on doit parler de ces questions liées à l'insécurité, il faut parler de la misère. C'est la misère qui crée de l'insécurité.
Ah, bien sûr, toujours.
La pauvreté. Et ça n'est jamais autre chose. Et si on doit parler de chiffres, on peut mettre en face des chiffres cités sur l'immigration, les chiffres de l'aide publique au développement. Je rappelle que la France ne tient toujours pas ses engagements en termes d'aide publique au développement. Ça fait 40 ans que ça dure. La dette de l'aide publique au développement de la France, elle est de l'ordre de 200 milliards. C'est pas une bagatelle. En 40 ans, on a sous-investi la solidarité et dans la capacité des populations à vivre autrement dans la misère.
Il est 19h47, je voudrais juste qu'on fasse un tour de table, parce que je voudrais quand même qu'on parle, vous savez quoi, du secrétaire d'État américain qui a fait ces derniers jours le tour des capitales arabes. Alors, il s'est rendu à Tel Aviv, il a insisté, donc auprès du... Il a vraiment lourdement insisté, mais je sais pas si ça sert à quelque chose auprès des dirigeants israéliens sur le lourd tribut, figurez-vous, que les civils payent en ce moment à Gaza. Alors, il a obtenu que l'ONU puisse y faire une mission d'évaluation. Ça sert à quelque chose, franchement, messieurs, Thierry-Paul Valette ?
Que l'ONU vienne ou ne vienne pas, c'est pas...
Non, mais là, c'est le secrétaire d'État américain. Blinken, il se déplace. Bon, là, je crois que vous êtes allé un peu trop loin sur les civils.
Vous êtes allé un petit peu trop loin. Ça fait des semaines, ça fait quand même deux mois qu'on dit qu'ils vont un petit peu trop loin, que la réponse, elle est quand même disproportionnée, parce que là, on est quand même sorti de l'émotion de l'attentat du 7 octobre et tout ce qui va avec. Bon, maintenant, il faut un cessez-le-feu, bien évidemment. Et les civils n'ont pas été.
Mais les Américains ne souffrent pas le chaud et le froid, non ?
Mais bien sûr que si. Mais la problématique, et c'est ça qui m'a interpellé, moi, c'est Mahmoud Abbas. L'autorité palestinienne. On n'en avait pas entendu parler depuis le 7 octobre, et même avant. C'est le Hamas qui a le contrôle depuis des années. Oui. Et là, il revient sur le devant de la scène. Donc ça, c'est intéressant. Ce qu'il faut faire, de toute façon, pour sortir aussi de ce conflit, c'est régler la question de la Cisjordanie avec les territoires occupés. Ça, faudra bien mettre cette problématique-là sur le tapis. Il faudra bien également les rendre. Oui. Et il faut bien ramener de la démocratie et rendre à l'autorité palestinienne sa légitimité qu'elle a perdue.
Faisons
avec
un tour de table avant de retrouver le coin neuf. Guillaume de Souy.
Oui, il faut retrouver de l'autorité positive là-bas comme ici. Là-bas, plus encore. Et là-bas, c'est encore plus difficile. Moi, je me souviens que la semaine dernière, il y a eu un mot qui a été lâché concernant le Premier ministre et où tout le monde s'est outré. Il n'empêche que il va falloir d'abord dire que Monsieur Netanyahou n'est pas un interlocuteur, que son gouvernement n'est pas un interlocuteur, qu'il faut passer un cran clair et la mission de l'ONU, son évaluation, elle risque d'être terrible. Et cette évaluation terrible, elle doit donner lieu à des actes très forts
bien
de la
sûr,
France.
S'il vous plaît.
Moi, je crois moi, si qu'il faut fermer, fermer nos ambassades en Israël.
Évidemment que quand l'ONU vient, ça apaise les choses déjà.
Là, c'est le secret d'État américain qui vient.
Non mais là, c'est le secret d'État, mais il demande une mission d'évaluation de l'ONU. Il faut la souhaiter de tous nos voeux et qu'elle se fasse le plus rapidement possible.
Le plus rapidement possible. 19h50, on est à l'heure. Pour une fois, c'est bien. Enfin, on est à l'heure, c'est bien. On s'efforce en tout cas de l'être. Tous les mercredis, vous savez, c'est le billet d'humeur, le quoi de neuf de El Professeur, le docteur Majid Seoussine.
Les informés, le quoi de neuf.
Bonjour El Professeur, Majid Seoussine, docteur. Comment ça va, mon cher docteur?
Mon cher Ali, l'être à l'heure, vous savez, ça fait aussi partie de réarmer la France.
C'est pas mal, bravo. Allez, je vous lance, vous êtes chaud là, je vous lance.
Eh bien écoutez, mon cher Adil, nouvelle année, nouveau Premier ministre. Adieu Iron Maiden, notre Margaret Thatcher version camembert, c'est normand.
Il est bon là, bien l'accroche, bien.
Et remplacé par une ancienne star de boys band, Gabriel Attal.
Oh,
vieille, remplacé par un faux jeune, qui a sans doute d'énormes qualités. Après tout, il a fait l'école de sienne, alors que nous faisions l'école communale. Un faux jeune, carré dans le métier de la politique depuis un certain temps. Conseiller de Marisol Touraine, puis ministre, et encore ministre, et maintenant Premier ministre. Je suis méchant, il est sympa. Il sait parler aux gens un peu comme Sarkozy, qui savait aussi s'adresser aux petits gens, mais lui, c'est sans le karcher dans la main. Lui, c'est beaucoup plus doux. Et ça ne cache pas moins une certaine dose de fermeté qui, s'il ne l'avait pas eu, ne l'aurait pas mené là où il est aujourd'hui. En tout cas, pour ma part, j'attends de voir ce que ça va donner le duel avec Bardella, qui est mis en scène par tous les chroniqueurs. Il ne faudrait pas que les Européennes soient un échec, car cela réduirait sa crédibilité. Déjà que Matignon risque de lui fermer les portes de 2027, il ne faudrait pas qu'il vienne allonger la longue liste de tous ceux qui étaient promis à un bel avenir. Longue liste, s'il en est, hein. François Baroin, Manuel Valls, Dominique Strauss-Kahn, Alain Juppé, Jean-Luc Borloo, Gérard Depardieu, Gérard Depardieu se confond, François Fillon, Florian Philippot, etc. Il faut dire que cette nomination ne réjouit pas tout le monde. Édouard Philippe vient de perdre son dernier cheveu. François Bayrou, qui avait encore des espoirs pour 2027, s'est remis à bégayer. Lui qui sait toujours ce qu'il faudrait faire, mais n'arrive jamais à en convaincre personne. Même le RN s'inquiète, car il ringardise un peu quand même Marine Le Pen, qui fait devant lui tenancière de bar de nuit fatiguée. Et je ne vous parle pas de Darmanin, qui s'est enfermé dans les toilettes de la place Beauvau et qui menace de se pendre si on ne nomme pas ministre d'État. Quant à Bruno Le Maire, qui croit que c'est lui dont parlait Chirac quand il disait le meilleur d'entre nous, vient de dépit de décider une augmentation de l'électricité de 10% et une baisse du taux du livret A. Oui. Je m'arrête là à dire parce qu'il faut pas que il faut quand même que je me refasse l'arrêt sur le côté. Ma mère dit que ça fait plus sérieux.
Qu'on salue d'ailleurs. Ah, vous êtes marrant, vous êtes très fort.
Et je vais devoir raccrocher, car on ne sait jamais, mon téléphone va peut-être enfin sonner, car c'est en moment, c'est ce moment qu'on compose le gouvernement.
Exact. Bravo en tout cas, mon cher El Professeur. Docteur Majid, c'est aussi la semaine prochaine, sans faute.
Avec joie
partagée.
Je suis ministre, je serai peut-être un peu...
Vous serez peut-être ministre, effectivement, vous serez peut-être ministre, c'est vrai, c'est pas faux. Bon courage, en tout cas, on vous le souhaite, si vous êtes engagé, bien sûr. Merci à Guillaume Dessouy, l'élu de Villejuif.
Merci
à humaniste lui. Aussi. L'élu du conseil régional.
Et moi,
et co-porte-parole aussi.
National de l'écologie au centre.
Eh oui, Philippe Nadjiboyaki.
On sera aux européennes.
Merci, monsieur le candidat à l'élection européenne, Thierry-Paul Valette.
Merci, mon cher Adil. Merci aux auditeurs, aux auditrices aussi.
Absolument. Merci à la réalisation. C'était Solal. Bill Lennemann, Time Sport, de 20h à 21h. Ensuite, c'est Vanessa que vous retrouvez dans Confidence, de 21h à 23h. Kim, demain matin, 7-10. Et quant à moi, demain, avec autant de plaisir. Mais surtout, qu'est-ce qu'on fait?
On lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.